Il est 18h à peu près, précisément sur France Culture, le journal Claire Checaglini. Bonsoir Claire.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. En Méditerranée orientale, le navire turc de prospection gazière rebrousse chemin. Athènes s'en félicite et y voit le début d'une désescalade. Un recul turc alors que la présidente grecque est en visite sur l'île qui concentre les tensions avec Ankara. En Biélorussie, près de 250 arrestations lors de cette nouvelle journée de mobilisation. Des dizaines de milliers d'opposants au président sont descendu dans les rues. Demain, Alexandre Loukachenko rencontrera Vladimir Poutine. Les 2000 toughers en Loire-Atlantique invités à se faire dépister au plus vite. Ils ont pu se contaminer durant tout le week-end sans être dérangés par les forces de l'ordre. Elles n'avaient pas les moyens de les déloger alors que la rêve partie était illégale. Athènes se félicite du retour du navire de prospection turc à sa base d'Antalya. Pour le premier ministre grec, ce geste est un premier pas permettant d'apaiser les tensions avec Ankara. Mais Kyriakos Mitsotakis en espère d'autres. Ce sont en tout cas les manœuvres de ce bâtiment qui avaient ravivé les tensions en Méditerranée orientale cet été entre la Grèce et la Turquie. Alors a-t-on assisté à une véritable reculade d'Ankara ou à une simple opération tactique? La réponse du général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po Paris et HEC.
Cette partie de la Méditerranée était venue une véritable poudrière. Il était évident qu'un incident militaire allait arriver à un moment donné. Donc l'attitude de M. Erdogan est juste raisonnable. Maintenant, l'a-t-il fait lui-même ou poussé par la pression internationale? Je crois qu'il faut penser que M. Erdogan a compris qu'il avait en face de lui une résolution de plus en plus forte, évidemment celle de la Grèce, mais évidemment la position très ferme tenue par la France avec le président Macron et l'envoi de matériel militaire, et puis celle de l'Europe qui finissait enfin par s'unifier, et je dirais l'OTAN également, M. Stoltenberg, enfin prenant conscience et élevant la voix. Donc je pense que d'une part, il y a eu une prise en compte de ce risque très grand par M. Erdogan, et d'autre part, il est évident que la pression internationale a joué. Mais ne pensons pas que les affaires sont terminées. M. Erdogan est un excellent stratège, il joue aux échecs, il vient de reculer l'un de ses pions. N'en doutons pas, il en avancera un autre bientôt.
Vincent Desportes, interrogé par Nabila Hamel. Et cette décision turque intervient alors que la présidente grecque effectue une visite de 2 jours sur l'île stratégique, un petit bout de terre au sud-est de la mer Égée dont le plateau continental est au cœur des convoitises d'Ankara. La correspondance d'Angélique Kourounis.
La Grèce recherche depuis toujours de bonnes relations de voisinage et de coopération avec la Turquie. Elle investit dans la coexistence pacifique et la coopération entre les deux peuples, mais elle n'est pas disposée à abandonner ses droits souverains ou d'accepter la remise en cause de sa souveraineté sur son territoire national. Le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité de l'Europe, du Sud-Est et de la Méditerranée orientale est l'axe principal de notre stratégie nationale.
Elle est petite, sa voix ne porte pas, mais ses propos n'en sont pas moins fermes. Et Katerini Sakellaropoulou, présidente grecque, veut faire passer un message à la Turquie. Oui, au pourparler, mais non s'il s'agit de perdre un bout de territoire comme l'île de Kastellorizo, qui malgré ses différents occupants a toujours été peuplée de Grecs, sauf quand les Arabes ont, au 7e siècle, emmené toute la population en esclavage. Sa position géographique unique lui a valu nombre de convoitises. Francs, Vénitiens, Catalans, Italiens, Français, Britanniques, Ottomans l'ont occupée. Mais sa population a toujours été grecque, chrétienne, orthodoxe, une population qui entretient d'excellentes relations avec la population turque en face de ses rives. Des relations commerciales, touristiques, et il n'est pas rare que des médecins turcs plus proches que ceux d'Athènes soignent les Kastellorisiotes. Le problème aujourd'hui, c'est les droits maritimes que donne le plateau continental de l'île sur les réserves énergétiques de la Méditerranée. La Turquie revendique Kastellorizo et 16 autres îles grecques habitées pour y avoir accès. Si Athènes est disposée à discuter de ses richesses en hydrocarbures, elle est prête à défendre ses îles, coûte que coûte.
La correspondance d'Angélique Kourounis. Aux États-Unis, les responsables de la côte ouest ont accusé Donald Trump de nier le changement climatique une nouvelle fois. Critique formulée à la veille d'un déplacement en Californie du président américain. Dans cet état, 1 200 000 hectares sont partis en fumée, 250 000 dans celui de Washington, 400 000 dans l'Oregon. La faute à la gestion des forêts dans les territoires tenus par les démocrates, estime le candidat des républicains lors de son dernier discours. Donald Donald Trump n'a jamais mentionné en revanche le réchauffement de la planète. Dernier jour de vote en Russie, dans 41 régions sur 85, les électeurs doivent désigner des gouverneurs, des élus d'assemblées régionales, municipales et 4 députés. Le scrutin se déroule dans des bureaux de vote mobiles et en plein air. Ces conditions rendent extrêmement difficiles les contrôles, dénonce l'opposition au Kremlin. En Biélorussie, près de 250 opposants au président Loukachenko ont été arrêtés aujourd'hui. Ils manifestaient dans la capitale Minsk pour demander la libération de l'une des figures de l'opposition. Une démonstration de force du pouvoir en place, donc soutenue par Moscou. Alors que justement, Alexandre Loukachenko est attendu demain au Kremlin. La correspondance de Claude Brouillot.
Si Alexandre Loukachenko voulait rencontrer Vladimir Poutine demain à Sotchi pour lui annoncer que les manifestations de rue à Minsk sont terminées, c'est raté. Le pouvoir biélorusse a, comme chaque dimanche depuis plus d'un mois, fait procéder à des arrestations de masse aujourd'hui encore. Malgré l'emprisonnement en début de semaine de leur dernier leader encore sur place, Maria Kolesnikova, les habitants de Minsk et des environs se sont encore rassemblés par dizaines de milliers pour réclamer toujours le départ d'Alexandre Loukachenko. Dans de telles conditions, le président biélorusse ne pourra faire la démonstration qu'il parvient à se sortir seul de ce mouvement de fronde pacifique. Et la feuille de route de Vladimir Poutine risque d'être à sens unique demain. Le Kremlin a désormais en face de lui un interlocuteur affaibli dont l'avenir dépend à moyen terme du soutien de Moscou. Le président russe aura tout loisir alors d'imposer à Alexandre Loukachenko de nouvelles conditions vers une intégration accélérée de la Biélorussie à la Russie en échange de son soutien pour rester encore quelque temps au pouvoir.
La Biélorussie dont vous reparlerez dans quelques instants, Frédéric.
Absolument, on évoquera la figure de Svetlana Alexievitch dans Soft Power, l'émission qui suit juste après Claire.
Air France KLM est en sursis, sa survie n'est pas assurée, indique aujourd'hui le ministre hollandais des Finances. La compagnie aérienne franco-néerlandaise qui perd 10 millions d'euros par jour a contracté près de 10,5 milliards d'euros de prêts. En échange, KLM va supprimer 1500 emplois et Air France 6500. La ministre irlandaise de la Justice réfute les accusations de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique avait affirmé que l'Union européenne menaçait d'instaurer un blocus en Irlande du Nord. Ce n'est tout simplement pas le cas. Toute insinuation selon laquelle cela va créer une nouvelle frontière est tout simplement fausse, a expliqué aujourd'hui Helen McEntee. Précision alors que les discussions sur le Brexit se sont envenimées cette semaine. Les 2000 participants à la rêve de Basse-Goulaine en Loire-Atlantique sont invités à se faire dépister dans les 48 heures. Pour l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, la probabilité que les teufeurs soient porteurs du Covid et donc contagieux est élevée. Par ailleurs, la gendarmerie a verbalisé 174 d'entre eux, mais installés depuis samedi matin au-dessus de Nantes, les fêtards n'ont pas été délogés par les forces de l'ordre, bien que le rassemblement soit illégal, Julie Munch.
Pas assez de moyens, tout simplement, nous dit-on du côté des forces de l'ordre, des motards, des militaires en patrouille, un hélicoptère, mais seulement une vingtaine de fonctionnaires en tout. Et en face, environ 2000 jeunes fortement alcoolisés. Une fois qu'ils sont installés, c'est presque impossible d'intervenir, admet un gendarme. Le risque d'affrontement est trop important. Le remède peut être plus mauvais que le mal, souligne-t-il. Alors, pourquoi les autorités ne sont-elles pas intervenues avant? Tout simplement parce que pendant que les ravers s'installaient, les renforts nécessaires étaient ailleurs, occupés par des affrontements avec des sound systems à Nantes vendredi soir ou à encadrer la manifestation des Gilets jaunes à Nantes samedi. Un week-end agité donc pour les gendarmes, choisi avec soin par les ravers, tout comme le matériel utilisé, une sono relativement légère par rapport à d'autres free parties, transportée dans des voitures et des camions plutôt discrets.
Julie Munch de France Bleu, Loire-Océan. Et puis en Gironde, sur la commune de Villenave-Ornon, une autre rêve partie, tout aussi illégale, a elle réuni ce week-end dans de 300 et 1 millier de teufeurs. Le président du MEDEF en guesta à la fête de l'humanité, une première dans l'histoire de l'organisation patronale. Geoffroy Roux-de-Bézieux a donc débattu cet après-midi face à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, habitué de cette grand-messe du quotidien communiste. Philippe Varin met en garde contre des suppressions d'emploi. Le numéro 1 de Suez dénonce dans le JDD ce matin une opération hostile de Veolia. Le leader de la gestion de l'eau et des déchets a annoncé vouloir racheter son concurrent. Philippe Varin Varin espère convaincre Matignon des failles du projet de Veolia. La météo pour demain matin, quelques brumes en Alsace-Franche-Comté et au nord de la Lorraine, ainsi que sur les Pyrénées-Orientales. Ailleurs, le ciel sera azuréen, les minimales s'échelonneront de 9 à Rouen à 22 à Nice et dans l'après-midi, le mercure dépassera les 30 degrés sur la majeure partie du pays.